Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans les débats d'Europe Soir. Dans 3 minutes exactement, il sera 18h, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et à partir de 19h15, juste après le journal, nous nous intéresserons au vote catholique pour la future présidentielle. En partenariat avec le Pèlerin, nous avons enquêté avec l'aide de l'Institut IFOP sur ce vote qui concerne plus ou moins un tiers de la population française. Mais dans cette première heure de 18h à 19h, nous parlerons surtout de ce chèque qui vous concerne peut-être, qui s'adresse en tout cas à tous ceux qui gagnent jusqu'à 2000 euros net par mois. Un chèque de 100 euros pour pallier l'inflation et en réalité surtout les dépenses liées à l'énergie, carburant et chauffage. Que pensez de ce chèque? Est-ce un pansement utile, comme le dit cet après-midi Yannick Jadot? Est-ce un manque d'équité, comme dit l'économiste Mathieu Plane, qui prend l'exemple d'un couple de retraités sans voiture qu'il touchera deux fois, à l'inverse d'une mère de famille qui en a besoin tous les jours avec sa voiture? Le débat est lancé. 19h, le journal d'Hélène Zéani. Et 19h15, donc, place à cette enquête du Pèlerin en partenariat avec Europe 1 auprès des catholiques de France. On compte plus ou moins 30% de catholiques dans l'Hexagone. Et la question, c'est comment vont-ils peser dans la présidentielle? Pour qui votent-ils? Forcément un candidat de droite ou pas? Forcément un candidat de droite ou peut-être même d'extrême droite? Croit-il en Zemmour? Comment la foi en Dieu influe sur leur vote? Autant de questions autour desquelles nous débattrons avec Samuel Liévin, directeur de la rédaction du Pèlerin. Je suis toujours en compagnie ce soir de Georges Fenech. Bonsoir. Ancien magistrat et fin observateur, avec l'essayiste Maxime Liédo, bonsoir.
Bonsoir.
Avec François Pupponi, député apparenté Modem du Val-d'Oise, bonsoir, bonsoir François. Et Patrick Caram qui va nous rejoindre, vice-président de Libre et vice-président de la région Île-de-France. Dans l'actualité de ce vendredi également, 6 ans après le drame, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans l'enquête sur l'accident de car de Puy-Seguin, souvenez-vous, en Gironde. Drame qui avait fait 43 morts le 23 octobre 2015. Le parquet a interjeté appel. Après 2 ans d'arrêt, le train des primeurs a repris du service. Le train des primeurs qui achemine les fruits et légumes entre Perpignan et Rungis. Le premier est parti tout à l'heure en présence de Jean Castex. Kamala Harris sera à Paris le 11 novembre. La vice-présidente américaine assistera notamment au forum sur la paix lancé ce jour-là. Des dizaines de chefs d'État, chefs d'entreprise et acteurs de la société civile sont attendus en virtuel ou en présentiel, comme on dit, pour la 4e édition de l'événement. Un monument, une boussole pour le projet européen, une immense femme politique, les dirigeants européens ont acclamé, rendu hommage à Angela Merkel lors du sommet à Bruxelles, son dernier après 16 ans au pouvoir. Dans l'actualité également, ce drame hollywoodien, l'acteur Alec Baldwin a accidentellement tué une personne sur le tournage de son dernier film. La directrice de la photographie blessée par balle par une arme qui devait être chargée à blanc. Le réalisateur du long métrage, également blessé, serait sorti de l'hôpital. Alec Baldwin a été interrogé par les enquêteurs. Il est reparti libre des lieux du tournage. L'état de santé d'Elisabeth II, les médecins lui ont demandé de se reposer durant les prochains jours. La reine d'Angleterre a été hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi où elle a subi des examens préliminaires. Nous sommes dans les débats d'Europe Soir et il est 18h.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Après Jean Castex, c'est donc au chef de l'État lui-même de défendre ce chèque de 100 euros, chèque inflation, pour toute personne gagnant moins de 2000 euros net par mois, somme versée en une fois à plus de 38 millions de personnes, salariés, fonctionnaires, indépendants, des retraités, certains étudiants, propriétaires de voitures ou pas. Emmanuel Macron, qui au sommet de Bruxelles, défend une mesure juste et ciblée.
J'attire l'attention quand même de toutes celles et ceux qui proposent de baisser les taxes sur le carburant. La première chose, c'est que manipuler la TVA n'est pas possible en droit européen. La deuxième chose, c'est que les taxes sur les carburants, nous sommes à peu près dans la moyenne européenne. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc tous ceux qui appellent à la sagesse en termes de finances publiques seraient bien inspirés de regarder combien coûte cette baisse. Troisième élément, elle est absolument non ciblée. Quand vous la baissez pour tout le monde. Donc je considère que c'est plus juste et mieux ciblé ce qu'a décidé le gouvernement. Ils ont raison. Si on veut accompagner sur le pouvoir d'achat des gens qui sont soumis à des augmentations sur différents segments, mieux vaut avoir un instrument plus ciblé qu'un instrument général. Et ensuite, ce n'est pas très cohérent avec ce qu'on veut faire en termes de climat. Ce qui est fait à travers l'échec et ce que font plusieurs pays européens, c'est exactement ce qu'on doit faire, qu'on n'avait pas fait assez vite d'ailleurs, je reconnais très aisément, il y a un peu plus de 3 ans. C'est de dire qu'il faut accompagner la transition énergétique avec des instruments pour les plus modestes.
Voilà donc la déclaration d'Emmanuel Macron au lendemain de celle de Jean Castex sur ce chèque inflation. Un pansement utile, mais le gros problème de la stratégie du gouvernement, c'est qu'il n'y a aucune anticipation. C'est ce que dit Yannick Jadot. Vous êtes d'accord ou pas avec lui ? Ou avec le président de la République sur ce chèque ? Je vous sens un peu hésitant, Georges Fenech.
Non, d'abord, la première réaction, c'est de se dire que, ma foi, c'est bienvenu pour certains foyers, certaines personnes, 100 euros, qualifie-moi un peu de prime de Noël, hein, ça arrive en fin d'année. Bon, on ne va pas cracher dessus quand on a des petits salaires. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas qu'une simple rustine, je dirais, et qu'on ne devrait pas s'attaquer plus profondément à ce qui a provoqué cette hausse énergétique de l'énergie. Et notamment sortir, vous savez, de ce système qui veut que lorsque le pétrole augmente, toute l'énergie augmente, alors que nous avons un nucléaire, nous, qui est quand même à bas prix,
qui pourrait être décorrélé. Oui, mais un nucléaire contesté aussi.
Comment ?
Un nucléaire contesté.
Ça, c'est encore un autre sujet, mais le nucléaire, c'est quand même 70% de notre électricité. C'est ce qui fait que nous avons des factures aujourd'hui qui sont acceptables, supportables. Et que malheureusement, on a un système, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qui suit le mouvement des prix du pétrole. Donc je pense que c'est là-dessus, effectivement, que le gouvernement a une responsabilité, c'est de ramener le prix de l'énergie à son juste prix pour les Français. Après le reste, un chèque de 100 euros, ma foi, pourquoi pas. Mais l'exemple qui a été donné tout à l'heure dans le reportage montre bien que il y aura une forme de déséquilibre. L'exemple qui a été cité d'une jeune mère...
Oui, ça c'est Mathieu Plane, hein, qui est économiste et qui dit, voilà, il prend l'exemple de deux retraités urbains sans voiture qui auront deux fois l'indemnité et une mère seule avec trois enfants en zone périurbaine ayant beaucoup besoin de sa voiture et qui n'aura donc qu'un seul chèque de 100 euros. Voilà.
Oui, c'est le défaut d'une mesure aussi générale qui n'est pas aussi ciblée que le dit le président de la République.
Que dit François Pupponi ?
Non, c'est à la fois une mesure pour effectivement l'augmentation du coût du gasoil et de l'essence, mais c'est aussi une augmentation par rapport à l'inflation. Donc ça a été dit comme tel. Hein. C'est de dire, on prend en compte qu'il y a aujourd'hui une tension sur le pouvoir d'achat et on accorde effectivement 100 euros à ceux qui ont moins de 2000 euros. Effectivement, pour un couple, si les deux ont moins de 2000 euros, ils toucheront 200 euros.
C'est ça.
Et une femme seule, qui est seule à travailler, ouais, à 2000 euros, ok. On aurait pu imaginer, le président de la République l'a dit, baisser, travailler sur les taxes, sur les carburants, mais ça ne touchait que ceux, effectivement, quel que soit leur niveau de revenu. Donc le choix qui a été fait, c'est de faire un coup de pouce qui n'est pas neutre. Hein. On l'a calculé, si une personne qui roule 14 000 km, 15 000 km par an, c'est à peu près, avec l'augmentation du coût de l'avion, c'est à peu près 80 euros qu'elle devra payer de plus dans l'année, compte tenu de l'augmentation du coût de l'essence ou du gasoil. Donc 100 euros, ça couvre cette augmentation. Mais pour ceux qui ont effectivement une voiture. Puis il y a les autres qui sont quand même confrontés à des difficultés. Il ne faut pas oublier que ce chèque-là, de 100 euros, vient après le plafonnement du coût du gaz qui est augmenté aussi, et la limitation de l'augmentation de l'électricité à 4%, alors qu'elle devait augmenter de 12%. Donc c'est le troisième geste pour faire en sorte que l'énergie qui est consommée par les Français ne soit pas trop insupportable en termes de...
Et sur le calendrier, ça vous amène quoi comme commentaire ?
C'est le calendrier, c'est maintenant que ça augmente, même si ça...
Ah oui.
C'est pas le gouvernement. Bien entendu, je vous vois venir.
Ben oui.
C'est pas le gouvernement qui a décidé que ça devait augmenter maintenant. Maintenant, j'allais dire, l'augmentation tombe à un moment où effectivement...
On peut se poser des questions.
Ça tombe peut-être, entre guillemets, uniquement pour des raisons politiques, pas si mal que ça.
Voilà. Et Maxime Yedo ?
Il y a plusieurs éléments quand même. Quand j'entends le chef de l'État dire que de toute façon, baisser la TVA, c'est contre les règlements européens et c'est contre les normes européennes. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais visiblement, il n'a pas écouté la Commission européenne qui, en début de semaine, a encouragé tous les États membres de l'Union européenne à baisser les taxes, y compris la TVA. Donc c'est dommage parce que ça ne tombe pas au bon moment. Ensuite, le Royaume-Uni, c'est une option que le Premier ministre là-bas, Boris Johnson, est en train d'évaluer de baisser certaines taxes sur l'essence. Donc,
ça ne vous a pas échappé qu'elle n'est plus dans l'Union européenne.
C'est pour ça que j'ai commencé par l'Union européenne et que j'ai dit ensuite, il y a le Royaume-Uni. Il y a d'autres pays qui peuvent le faire et je remarque que par exemple le Portugal ou la Croatie ont réussi à baisser les taxes. Ensuite, c'est toujours en effet un peu délicat quand on entend le président de la République affirmer que c'est ciblé. Non, c'est pas ciblé. Parce que, en effet, on l'a dit, par exemple, les retraités, la Cour des comptes alerte quand même sur le fait que la dépense des retraites en France, c'est déjà 14,4% du PIB. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit les premiers qui aient besoin d'aide. Donc, je trouve que, si vous voulez, de plus en plus, on fait quand même un cadeau de 3,8 milliards sur la facture de l'État, qui est colossal.
Patrick Aram, que je salue. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, je ne sais pas ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, pardon.
Tant pis pour vous.
Tant pis, voilà. Mais je vais me lancer. C'est quand même curieux d'avoir une mesure qui arrive quelques mois avant l'élection et qui va être distribuée.
Vous voyez qu'il y a une question de calendrier.
Et qui va être distribuée, par exemple, pour les retraités, parce qu'il a besoin du vote des retraités quand ? Rappelez-moi ça. Février. Pour les fonctionnaires, janvier. Là, on parle des salariés, ça va être fait là prochainement. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien le coup politique. Et après tout, pourquoi pas, c'est bien joué. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël qui, chaque semaine, ou parfois deux fois par semaine, tire son chéquier et fait en sorte de répondre aux besoins des uns et des autres.
C'est la suite du quoi qu'il en coûte.
Disons qu'il est dans une séquence, cette fois-ci, beaucoup plus politique, parce que il va directement parler à l'électeur. Alors, oui, je ne méconnais pas le fait qu'il puisse se dire on peut avoir un nouvel épisode des Gilets jaunes, faut faire attention, faut déminer, etc. Moi, je veux dire simplement deux choses. Un, c'est injuste. Parce que ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui roulent moins, ceux qui bénéficient de transports en commun, ils vont quand même avoir les 100 euros dès lors qu'ils rentrent sous le seuil. Deuxièmement, vous avez 2000 euros de revenus, 2001 euros, 2002 euros.
Oui.
Vous n'en bénéficiez pas. Troisièmement,
C'est l'inévitable effet de seuil. Mais
c'est
ça,
l'effet de seuil. On aurait pu lisser.
Ça,
on
c'est toujours pu... pareil.
Non, on peut lisser. Ça veut dire qu'on dit à partir de 2000 jusqu'à X, eh bien, on aura tant. On peut lisser. Je veux dire qu'il n'y a pas pris de mesure.
Jusqu'à 10 euros.
Il n'a pas pris de mesure pour lisser les choses. Troisièmement.
Après, la mesure est prise en urgence. Donc,
je suis
plus
là pour jouer les contradictoires. Je ne suis pas là pour dire amen et merci et bravo. Troisièmement. Moi, je considère qu'il y a quand même une expérience qui a marché en Outre-mer. Allez regarder les prix en Outre-mer. Il faut toujours citer l'Outre-mer. Quand
vous
c'est
avez
un
raison,
exemple.
Patrick.
Eh bien, en Outre-mer, lorsqu'il y a eu le LKP, lorsqu'il y a eu la déflagration, souvenez-vous à l'époque Sarkozy, ça avait commencé en Guyane. Personne ne l'avait noté. En Guyane, on était à 1,77€ le litre d'essence. Résultat, tous les élus nous préviennent que ça va chauffer. Le milieu économique patronal, les syndicats, ça chauffe. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on bloque l'essence à 1,23€. La Martinique, la Guadeloupe et non, les autres territoires
ça,
se mettent
entendu.
En branle.
On
et
a tous entendu Bruno Le Maire
moi,
qui disait
ce que je peux vous dire,
c'est
qu'en
Outre-mer, trop cher pour les caisses de l'État.
Le prix de l'essence sans gaz, fuel ou autre, c'est inférieur au prix national. C'est quand même une performance, sachant qu'il y a des coûts supérieurs. Et je me félicite effectivement qu'ils aient pris en compte la situation et des Outre-mer. Mais ce prix est fixé par qui là-bas ? Guadeloupe, Martinique, Guyane. Je reviens de La Réunion, j'étais là à La Réunion, j'étais en Guyane la semaine dernière. Eh bien, je peux vous dire que le prix est fixé par le préfet. C'est un sujet politique, c'est traité politiquement. Alors oui, ça coûte cher, vous avez raison de le signaler. Je crois que baisser d'un centime sur la TICPE, c'est quoi ? C'est 500 millions d'euros. On voit bien que ça n'est pas possible. Fabius l'avait fait. Ça avait coûté une plombe sans avoir de réel effet politique pour lui. Il a besoin qu'il y ait un effet politique. Moi, je veux simplement dire une chose. Ok, il a pris cette mesure-là, mais les Français ne veulent pas de l'aumône. Les Français, eux...
Attendez, vous parlez comme Marine Le Pen.
Ceux qui veulent...
Marine Le Pen qui appelle ça l'aumône inflation.
Alors, moi, excusez-moi, mais c'est pas parce que elle dit pour une fois une chose intelligente dans sa vie qu'il faut s'interdire
c'est
de
une
dire,
fois dans sa vie
de dire
une fois dans sa vie
soi-même
une...
de faire soi-même ce que l'on veut faire. Non, Marine Le Pen a ça, je pense pas être le seul à le dire, je ne l'ai pas entendu le dire, mais peu importe, beaucoup le disent, beaucoup de Français le disent, on ne veut pas d'aumône, nous on veut augmenter notre pouvoir d'achat.
Vous faites sourire François Pupponi quand
mais
même.
François Pupponi qui est un historique, un socialiste historique, est aujourd'hui un fervent macroniste et c'est bien, moi je l'admire parce qu'il mène tous les combats.
C'est un modéliste.
Mais il mène un combat, un combat de tous les feux. Et puis c'est très bien, il faut qu'il joue son rôle. Il doit défendre le président de la République. S'il n'était pas là pour défendre le président de la République, qui le ferait à sa place ?
François Pupponi.
Non, à la fois j'entends ce qu'il parle, mais si on avait décidé de baisser le coût de l'essence et des carburants, et que ça aurait coûté 3, 5, 6, 7, 8 milliards, parce qu'on n'allait pas de baisser d'un centime, on allait baisser de plusieurs centimes, et à chaque fois, c'était très cher. Et si on avait fait ça, on nous a dit, encore une fois, ils sortent le carnet de chèques, quoi qu'il en coûte. Bon, là, c'est une mesure qui coûte 3,8 milliards, il faut la financer, hein. Il faut la financer.
On n'en est plus là, là.
Non, mais oui, on n'en est plus là. Mais enfin, dire que Fabius avait fait la TICPE flottant.
Tout à fait.
Mais c'est ça qui avait coûté cher. Ça veut dire que quand les prix augmentaient.
Qui va la financer, ce sont les...
Quand les prix augmentaient, eh bien, les taxes baissaient. Et quand les prix baissaient, la taxe progressait. Oui, ça a coûté cher. Il n'y a pas eu d'impact politique.
D'accord. Sauf que.
Et il y a eu très peu d'effets sur les consommateurs.
Les 3,8 milliards ne vont pas être financés uniquement par la baisse des recettes et des taxes. Parce que. Par l'État. Pourquoi ? Parce que les mesures qui ont été prises, c'est le gaz, l'électricité et maintenant les carburants. Et le coût pour le budget de l'État est supérieur à ce que vont rapporter les taxes. Donc, globalement, ça va coûter de l'argent. Après, il n'y a pas de secret. Le coût de la crise, c'est 60 milliards d'euros.
Vous savez très bien qu'il y a une prévision de croissance économique
au-dessus.
5%, on parle de 6,5%. Et donc, l'État va reprendre d'une main, finalement.
Mais il va en donner. Il y aura un solde net qui sera négatif pour l'État. Il va reprendre
d'une autre main, puisqu'il va y avoir une augmentation de la consommation et donc des taxes.
C'est aussi une mesure de relance. C'est aussi une mesure de relance.
Mais au final, bon, il y a un tour de passe-passe quelque part.
Maxime, je trouve quand même qu'on passe à côté, à mon sens, de ce qui est le vrai sujet, c'est-à-dire qu'on trouve ça normal dans ce pays, qui est accessoirement la 7e puissance du monde, d'envoyer un Premier ministre à 20h. Pour donner une aide à énormément de gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre de l'essence dans leur bagnole.
Qu'est-ce que vous auriez fait ? Rien ?
Non, c'est pas que j'aurais rien fait, c'est que ça doit quand même poser la question de beaucoup de choses, notamment en ce moment de gens qui ont du mal à vivre. Je veux dire, on est obligé de leur donner un chèque énergie parce qu'il y a 6 Français sur 10 qui ont du mal à se chauffer. On est obligé de donner des aides alimentaires aux étudiants parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir. Et je passe le nombre d'aides dont se félicite Bruno Le Maire, notamment lundi, à ce même micro face à Sonia Mabrouk, en disant que grâce à lui, le SMIC est à un peu plus... Et rehaussé à 1500 ou 1384 net.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je trouve que ce que je veux dire par là, pour être très clair, c'est que c'est assez honteux que dans la 7e puissance du monde, on se vante que des gens gagnent 1384 euros net. Déjà parce qu'en réalité, ce n'est pas net, parce que l'État s'amuse à vanter des primes et des primes et des primes, c'est-à-dire que le coût du travail ou la façon dont on travaille, ça ne rapporte pas autant qu'il se doit. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien aussi, et c'est le sujet de l'essence, quand on voit que le prix de l'essence est composé à 60% de taxes, c'est ça aussi qui est choquant. C'est-à-dire que les gens se demandent en permanence, surtout quand on voit en plus la dette, où va cet argent ? Je veux dire, sous De Gaulle, je crois que le taux de prélèvement obligatoire, c'était 33%. Aujourd'hui, on est à plus de 47%. On est les champions du monde pour ça. Donc, vous voyez, c'est une accumulation de choses qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui bossent ont la sensation de bosser littéralement pour rien. Et je ne trouve pas ça normal qu'une fois de plus, dans la 7e puissance du monde, c'est la fameuse thèse du déclassement, on soit obligé, l'État français soit obligé de donner des aides. Et c'est pareil pour le travail. On l'a vu pour le Ségur aujourd'hui, que des aides-soignantes atteignent à peine les 2000 euros nets parce qu'on leur file des primes.
C'est-à-dire qu'il y a un problème structurel alors qu'on a ce phénomène de déclassement et en même temps on a un pouvoir d'achat parce que les gens parlent beaucoup de pouvoir d'achat, c'est dans toutes les et le pouvoir d'achat augmente.
C'est très intéressant ça aussi, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'achat qui en fait soi-disant dans les chiffres augmente et c'est très nuancé parce que Libération il y a deux semaines expliquait très bien que quand on prend en réalité les autres chiffres que le fameux rapport qui vante les mesures pour le président Macron, c'est en réalité les plus favorisés qui l'ont démontré. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout que les Français ne sentent pas ce pouvoir d'achat.
Mais c'est autre chose. Au niveau des chiffres, c'est révélateur.
Mais chaque fois qu'on parle de moyenne, on se trompe. Il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est comme pour ces 100 euros, il y a des gagnants, il y a ceux qui vont perdre. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 millions de pauvres. Il y a 10 millions.
Il va vous le dire.
Il y a 10 millions de pauvres dans notre pays. Il y a à peu près 10 millions de personnes qui aujourd'hui, certains d'entre eux travaillent, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à finir leur fin de mois, dorment dans leur voiture, n'arrivent pas à se chauffer, éteignent le chauffage, mettent des vêtements, le soir quand ils sont chez eux, ils mettent des pulls, etc. Parce qu'il y a un sujet.
Parce qu'ils ne se
chauffent pas. Et ce sujet, c'est finalement le sujet du pouvoir d'achat. C'est sur ça que le président devrait peut-être avoir un regard plus acéré. On a un problème de pouvoir d'achat.
Et vous avez un regard acéré sur le pouvoir d'achat par chez Libre avec Valérie Pécresse.
La présidente a proposé d'augmenter le SMIC de 10%. 10% net. Voilà. Et elle a expliqué comment le financer. Et ce que je peux
10%
vous dire,
du coup, ça fait ce 130 peux... euros, c'est ça?
Non, mais par mois. Oui. Ah oui, par mois.
Bah oui,
pas
oui,
par
mois. Non, mais c'est pas la question.
C'est la question que je veux dire.
On s'en fout de ça.
Pourquoi
on s'en fout, Maxime Hidalgo? Parce qu'on s'en fout quand on fait 10%. Parce que la vérité, c'est de savoir qu'avec 130 euros de plus par mois, est-ce que les gens qui touchent le SMIC avec 130 euros de plus par mois vont pouvoir vivre correctement?
Mais est-ce que je peux finir?
Je lui ai donné l'interrompre de tunnel.
On augmente donc le SMIC de 130 euros et on sait très bien que lorsque le SMIC progresse, il y a un effet en chaîne. Ça veut dire que les autres salaires progressent.
Oui, et donc du coup, aussi. C'est un cercle vicieux, c'est ce que vous dites.
C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux qu'on veut faire. On estime qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent ne sont pas assez bien payés. On estime aujourd'hui qu'il faut, et c'est Valérie Pécresse qui, la première, a dégainé cette mesure après avoir fait travailler toute une série de spécialistes, nos ordinateurs. Écoutez, deux minutes. Et non, après, vous pourrez...
Je ne fais que ça, écoutez, ça va être long.
Et donc, Patrick, ça va être long, deux minutes.
Bon, alors, très bien. On voit bien le sujet aujourd'hui. C'est le sujet du pouvoir d'achat. Il faut absolument que le président de la République prenne le problème à la source.
Une première pause.
Et ne réponde pas, au coup par coup, à un problème qui est un problème structurel.
Une première pause, problème structurel, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On revient dans un instant avec Georges Fenech, François Pupponi, Patrick Karam et Maxime Hidalgo. À tout de suite dans les débats d'Europe Soir.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Les débats d'Europe Soir et on parle de ce chèque. Alors, chèque cadeau sapin de Noël ou chèque effectif et chèque de solidarité envers les plus modestes, ceux qui gagnent jusqu'à 2000 euros par mois en net. Hein, ça représente 38 millions de Français, des salariés, des fonctionnaires, des indépendants, des retraités, des étudiants, notamment des étudiants boursiers et ceux aussi qui sont autonomes fiscalement. On en parle avec Georges Fenech, François Pupponi, Patrick Karam et Maxime Hidalgo. Il y a une chose sur laquelle vous êtes d'accord tous, c'est qu'il faudrait plus des réformes structurelles, mais alors ces réformes structurelles, plutôt qu'effectivement des mesures comme ça au coup par coup, ces fameuses réformes structurelles, pardonnez-moi, mais j'entends parler de ça tout le temps, et surtout à l'approche d'élections présidentielles, et finalement, j'ai pas l'impression qu'elles arrivent très souvent, ces réformes structurelles. Georges Fenech.
Toujours les mêmes recettes, je dirais, c'est-à-dire la baisse des charges sociales pour augmenter la compétitivité des entreprises dans un monde en concurrence, une mondialisation. Tant qu'on n'aura pas retrouvé effectivement des entreprises qui soient allégées dans leurs charges sociales et qui puissent affronter des prix défiant toute concurrence, notamment venant de l'Asie, il est certain que l'industrie se replie sur elle-même, les salaires sont moins élevés et nous sommes moins compétitifs. Il n'y a pas de mystère, l'économie, l'industrie, tout est lié et le pouvoir d'achat est lié à...
Pourquoi on le fait pas
Mais c'est des politiques économiques, il faut réduire les dépenses. Déjà, pourquoi on ne réduit pas les dépenses? On nous annonce, dans les programmes, Valérie Pécresse a annoncé, je crois, une réduction, une suppression de 150 000 fonctionnaires. Je me souviens, à l'époque de François Fillon, on avait dit 500 000 fonctionnaires sur le quinquennat et ça avait entraîné un tollé. Donc, vous avez dit 47%, je crois, de
taux de prélèvement obligatoire.
De prélèvement obligatoire, mais
on était à 45, maintenant on est à 47.
On est champion du monde.
On est à 53%, tout compris, donc largement au-delà de la moyenne européenne. Donc il faut effectivement réduire, comme on dit, toujours la voilure de l'État.
Mais après, on a une couverture de santé qui est
ça, c'est intéressant de dire, parce qu'on ne peut pas dire en permanence aux Français, regardez, vous êtes taxés, et regardez qu'est-ce que vous avez en échange.
Il y a une contrepartie.
Oui, mais la contrepartie, j'ai envie de dire, pardonnez-moi de parler vulgairement, mais la gueule de la contrepartie, on a bien vu pendant la crise. On a dû faire presque des télétons pour les hôpitaux pour ramener des messes. Pour la tête, oui, mais j'avais envie d'insister quand même sur cette marque de fabrique. Regardez ce qui s'est passé sur les hôpitaux pendant la crise. Ce sont des particuliers qui ont dû donner des masques aux hôpitaux. Je vous rappelle que les gens avaient interdit...
Oui, c'est la région qui a dû donner. C'est la région
Île-de-France. Dans les autres régions, il n'y a pas que l'Île-de-France. Les gens, pour avoir des masques et pour prendre les transports, étaient obligés d'aller chez les couturières ou chez les petits commerçants pour pouvoir se faire des masques à des prix exorbitants. Rappelez-vous ensuite du tout débat...
Il y a des marques de textiles, d'ailleurs, qui ont fourni bénévolement des masques aux hôpitaux.
Et puis regardez le nombre de personnes qu'on pouvait...
Qu'on a reçu ici à la France.
Mais regardez aussi le nombre de personnes qu'on pouvait uniquement en quelque sorte se permettre d'avoir en réanimation. Regardez également les manifestations de différentes personnes qui étaient, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les infirmiers qui étaient là avant la crise pour lesquelles on n'a pas fait grand-chose. Et regardez encore cette semaine, mercredi, les fameuses assistantes ou les fameuses accompagnantes des élèves handicapés à l'école manifestaient un peu partout en France parce qu'elles touchent pour 24 heures semaine, elles touchent 690 euros par mois et elles demandent juste une chose, c'est d'avoir la reconnaissance de leur statut par un statut de fonctionnaire. Donc bref, vous voyez, 47% de prélèvements obligatoires, les Français.
Vous parlez de la santé, mais il y a la justice, il y a la police.
Mais bien sûr, mais là, c'est une question.
Lorsque
Non, mais là-dessus, on peut tomber d'accord. Justice, ouais. Justice armée, ouais. Police, éducation nationale, mission santé, mission régalienne, il faut recruter, donner les moyens.
Soigner, éduquer, protéger.
La défense,
bien sûr.
Non, mais soigner, protéger, éduquer.
Ça veut dire que le reste, on arrête.
Que les élus arrêtent de réclamer, on veut tous notre trésorerie, on veut tous notre sous-préfecture. Non mais il faut arrêter, on ne peut pas dire on veut la sous-préfecture, on veut la trésorerie, on veut la poste, on veut tous les services publics, on veut tout et on ne veut rien supprimer, mais on veut supprimer les fonctionnaires. Donc à un moment, je prends un exemple très précis, à quoi servent aujourd'hui les sous-préfectures de notre pays ? C'est-à-dire, il y a des sous-préfectures, il y a 5, 6, 7 fonctionnaires. Voilà. Maintenant, on délocalise, ça va à la préfecture, on ferme des sous-préfectures. Mais il faut l'assumer. Il faut que tout le monde dise on ne peut pas à la fois faire de l'aménagement du territoire et en même temps ne pas supprimer les fonctionnaires.
Sous le quinquennat de Macron, on a augmenté non seulement le nombre de fonctionnaires d'État, mais on a augmenté les fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires territoriaux également.
Mais ça, c'est les collectivités locales. Ce n'est pas, pas la faute d'Emmanuel Macron. Si les collectivités territoriales augmentaient les fonctionnaires.
On sait très bien que dans le cadre du contrat que l'État a avec les collectivités, il y a une obligation de ne pas dépasser un certain seuil sur les dépenses de fonctionnement, et vous le savez. Alors moi, je veux juste faire une remarque. Quand on parle de crédibilité, il faut regarder ceux qui ont géré, ce qu'ils ont fait. Moi, je remarque que Valérie Pécresse a fait 2 milliards d'euros d'économies en Île-de-France. 2 milliards, ce qui nous a permis de faire un plan.
Elle
supprime des doublons. Et on a supprimé les doublons. C'est comme ça. L'ARS a été créée pour faire quoi ? Pour fermer des lits d'hôpitaux. Ce sont des fonctionnaires qui parlent à des fonctionnaires. L'ARS était normalement l'agence régionale de santé. Où sont les sachants ? Où sont les médecins ? Où sont les spécialistes de médecine ? Vous n'allez pas les trouver parce que vous avez la...
D'accord, on supprime les
sujets,
donc la gestion de la santé sur un département n'est plus.
Est-ce que dans votre région, Patrick Caram, est-ce qu'en Île-de-France, est-ce que chaque fonctionnaire est bien occupé?
Alors, moi je peux vous dire que...
Parce que c'est ça la question qui se pose dans toute la France.
Comment on a fait 2 milliards d'euros d'économies ? On a supprimé les doublons. On avait toute une série d'institutions qui marchaient peu ou prou sur les mêmes plateformes.
Ça veut dire
que
vous aviez deux fonctionnaires pour le même job ?
C'est très exactement comme ça. Nous avions, par exemple, pour le développement économique, plusieurs niveaux d'organismes associés. On les a fusionnés. On a fait des économies d'échelle, on a fait des économies de personnel, on a fait aussi des économies, on n'a plus...
Mais de quelle manière ? C'est-à-dire que vous avez...
000 fonctionnaires supprimés, c'est qui ?
Est-ce que je peux finir ?
J'avais la même question que François Pupponi. Que deviennent les fonctionnaires qui, du coup, n'ont plus ce job-là ?
Vous ne remplacez pas les départs à la retraite. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas remplacé les départs à la retraite. Alors, maintenant, je vais vous donner quand même une idée de ce qu'il faut faire. Quand même, parce qu'il faut en parler.
Merci,
la fraude sociale. Vous avez un homme, Charles Prats, qui publie son deuxième ouvrage. 100 milliards d'euros de fraude sociale. Un exemple, donnons trois exemples et ensuite je viens vous parler de lui. 75 millions d'assurés sociaux, il y a 67 millions d'habitants. Mmh. Comment vous l'expliquez ? Le problème c'est que vous payez pour ces assurés, vous le payez. Les dépenses de protection sociale, vous le savez, c'est 812 milliards. Sur ces 812 milliards, il y a 100 milliards d'euros d'économies à faire en allant piocher est-ce que vous savez par exemple, et ça je l'ai découvert dans un rapport de la Cour des comptes qu'il retrace, il y a 7,7 millions de personnes nées à l'étranger qui sont bénéficiaires de la retraite, c'est quasiment la moitié des retraités en France. Il y a un problème là-dessus.
Pourquoi ?
La moitié des retraités en France sont nés à l'étranger. Statistiquement, ça colle pas avec le profil de la population française.
J'ai pas compris ce raisonnement, Patrick. Mais est-ce que vous pourriez préciser ?
Je vous le dis. Oui. Ça veut dire qu'il y a des fraudes et on le sait. Et ces fraudes-là sont documentées. Et le problème de Charles Prats,
s'ils sont nés à l'étranger, mais ils sont français ou pas ? Je comprends pas.
Ils peuvent être français, mais il y en avait beaucoup qui ont fait de faux papiers, qui ont fait de faux documents.
Jusque vous êtes raisonnant.
Donne de faux noms,
si
qui ont de la fraude
documentaire.
Oui, mais d'accord.
Il va falloir recruter les fonctionnaires
quand
pour
vous
les contrôler.
Lisez le dernier. Quand vous lisez, c'est trop sérieux pour que vous. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux si vous voulez. C'est trop sérieux pour que vous puissiez vous gosser comme ça. Moi, je le dis ici aujourd'hui. Dans son ouvrage, on apprend par exemple que 16% des individus pris en charge par l'assurance maladie ne résident pas en France. C'est 200 milliards d'euros par an. 16%, alors que l'assurance maladie, c'est en France. Vous devez être résident en France. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des économies à faire. Et le sujet de Prats, c'est que c'est un magistrat, et qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il dénonce les choses, parce qu'il a le courage de le dire, qu'est-ce qu'on lui met sur le dos ? Une mission d'inspection générale pour le sanctionner. Général, une mission, oui, c'est une mission d'administrative, oui. Mais c'est une mission qui va documenter des plaintes qui sont posées. Et il y a, c'est une mission qui me semble être à charge au regard de ce qui est positionné. On verra ce qui va en sortir de cette mission. Mais je connais assez bien les inspections générales.
Il faut lutter contre la fraude, Patrick. On est tous d'accord.
Alors,
d'accord,
s'il faut lutter contre la fraude,
dans tunnels, on a le droit d'interrompre.
Pourquoi aller sanctionner Charles
Patrick, laissez parler. Il y a une question à vous poser, Patrick.
La fraude, elle est documentée. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaires qui ont estimé entre 20 et 40 milliards, maintenant 100 milliards.
Qu'est-ce qu'on a fait contre cette fraude?
Mais c'est pas, il faut lutter contre.
Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais
100 millions. C'est combien de lits d'hôpitaux? Je vous rappelle que vous n'êtes pas à la télévision et que du coup, si vous parlez tous en même temps, ça va pas.
Lutter contre la fraude, c'est indispensable, c'est nécessaire. Mais ça ne réglera pas, d'une manière générale, la question de la dépense publique.
On est en train de regarder tous les sujets sur lesquels on va pouvoir faire des économies. La fraude sociale, c'est 100 milliards. La fraude fiscale, c'est entre 30 milliards
Patrick,
documentés Patrick, ou 100
Patrick,
milliards.
Je suis issu, Patrick, je suis issu de l'administration fiscale, d'accord ? C'est une des administrations qui a supprimé le plus de fonctionnaires.
Non, je suis d'accord.
C'est une administration qui a supprimé le plus de fonctionnaires, parce que là, on dit après tout, on peut y aller. Et moins il y a de fonctionnaires qui luttent contre la fraude fiscale, et plus il y a de fraude fiscale.
Non mais le vrai sujet...
Est-ce que c'est vraiment l'équation est vraiment comme ça?
Mais bien entendu, quand vous n'avez plus de fonctionnaires pour aller faire des contrôles, il y a moins de contrôles. C'est mathématique.
Non, mais
vous pouvez avoir un fonctionnaire qui fait plus de contrôles dans la journée.
Quand vous en faites...
Moi je pose une question...
Mieux contrôler.
Un inspecteur des impôts, il fait 12 vérifications par an. Et quand vous faites 12 vérifications par an d'entreprise, je peux vous dire que vous avez fait votre job. Vous n'allez pas le dire, vous allez en faire 30. Est-ce que sinon il va bâcler... Non, mais c'est pas techniquement possible. Contre une entreprise,
avec les
ça
outils,
prend 3 mois, 4 mois.
Il y a des outils technologiques aujourd'hui.
Il y a des endroits où on va supprimer. Mais il y aura des conséquences. Bon. Quand on va supprimer des corps de contrôle dans un certain nombre de fonctions d'administration, il y aura moins de contrôle. On ne peut pas dire à la fois... Il faut renforcer les contrôles et on veut moins de fonctionnaires. Donc, moi, ce que je dis à tous les candidats qui disent on va baisser le nombre de fonctionnaires, oui, lesquels?
Alors, justement,
allez.
Oui, mais d'accord, mais il faut les supprimer.
Je veux finir sur Charles Prats parce que quand même, ça me semble emblématique de la situation. Voilà donc un lanceur d'alerte qui va. Et un lanceur d'alerte qui fait l'objet d'une mission voulue par le ministre de la Justice. Pour essayer de trouver de quoi le sanctionner. Moi, ça me pose un problème. Ça veut dire que dans notre pays, quand vous êtes citoyen, que vous lancez l'alerte, eh bien, on essaie de toucher à votre métier pour sanctionner le citoyen qui a lancé l'alerte. La question que je vous pose, c'est est-ce que le gouvernement ne veut pas avancer ? Pourquoi depuis toutes ces années, moi, je me souviens de Geoffroy Fougeret, 2007, il publie un ouvrage sur la fraude sociale. Qu'est-ce qui a bougé ? C'est un commissaire divisionnaire. Qu'est-ce qui a bougé depuis 2007 ? Quasiment rien. On voit bien qu'il y a un sujet, parce qu'il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder, parce qu'on est tétanisé par l'idée qu'on serait des racistes, parce qu'on aborderait ces questions sous cet angle-là.
Je reviens sur les réactions politiques à ce chèque justement de 100 euros destiné aux plus modestes pour notamment le carburant et le chauffage. Hein, c'est quand même les deux principales choses, même si ça s'appelle chèque inflation. Anne Hidalgo, elle, demande, tenez-vous bien, une baisse temporaire de la fiscalité sur l'essence. Voilà, elle qui...
C'est extraordinaire. Extraordinaire.
Combien de centimes elle laisse
elle demande... Elle ne donne pas de chiffres. Elle demande une baisse temporaire de la fiscalité sur l'essence.
C'est minimum 10 centimes, c'est 5 milliards d'euros.
Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, sur votre plateau, elle avait déjà fait cette proposition en disant « Voilà ce qui me sépare de Jadot. Jadot, c'est l'économie punitive. Ils veulent punir les automobilistes. Moi, c'est l'écologie punitive. Moi, c'est l'écologie positive. Et donc, comme je sais qu'on a besoin de la voiture pour se déplacer, je vais baisser le prix de l'essence. » Là, elle récidive.
C'est le en même temps,
elle
essaie
de revenir. Non, c'est pas le en même temps. Une femme qui traque les voitures à Paris et qui vous met les bâtons dans les roues, qui supprime 70 000 places de stationnement à Paris, qui ferme toutes sortes, les voies sur berge, qui a une politique vraiment anti-voiture à Paris, la voilà aujourd'hui.
Vous êtes resté bloqué un quart d'heure sous le tunnel juste en arrivant à Europe 1.
Merci,
vous êtes bien
mon chauffeur n'en pouvait plus.
C'est lui qui travaille toute la journée.
On peut parler très fort.
Georges Fenech.
Mais à sa décharge, elle va doubler le salaire des enseignants, tout de même.
Oui, il faut combien de centaines de milliards ? Tous non, l'ont
c'est
critiqué.
Pas sérieux, alors, c'est pas sérieux.
Anne Hidalgo, voilà pour sa réaction politique. Éric Zemmour, lui, interrogé à Rouen sur ce chèque, voilà ce qu'il dit.
Je suis ravi pour les gens qui vont toucher ces 100 euros. Ça les aidera dans leur fin de mois. Maintenant, le gouvernement, à 6 mois de la présidentielle, distribue des bonbons avec l'argent des Français et avec la dette. Pour le gouvernement, on attend quelque chose de plus global. Vous voyez, le gouvernement fait du clientélisme. Il achète la présidentielle.
Voilà, le gouvernement distribue des bonbons avec la dette, dit Éric Zemmour.
Mais quel est l'élu qui, à 6 mois d'une élection, n'essaie pas de faire des cadeaux pour équilibrer
l'élection? À
élections.
Ce point-là, c'est quand même indubitable.
Vous ne pardonnez
plus dans la crise. Non, mais Patrick.
C'est le signe de croix. Il manque le signe de croix.
Est-ce qu'on peut reprendre? Allez, si on veut être sérieux, on peut reprendre un an avant les élections régionales ce qu'a fait effectivement Valérie Pécresse.
Oui, reprenons. C'est pour ça que nous sommes bien gérés.
Mais non, mais bien sûr. Mais on s'en fout. Quand les régions se sont précipitées, par exemple.
S'il vous plaît. Moi, j'ai en tête.
Mais on sait très bien que ça
j'ai
se passe.
J'ai en tête un bon exemple.
Non, mais attends, mais tu peux pas parler des politiciens,
les enfants. L'exemple, c'est Raymond Barre et Giscard d'Estaing.
On s'en fout. Quand Giscard d'Estaing.
Reste en courtois.
Quand Giscard d'Estaing a voulu.
Petit exemple par pitié et laissez parler les autres.
Moi, ça m'avait frappé.
Je sais que vous êtes remonté comme une bandit.
Je découvrais la politique à l'époque. Giscard d'Estaing a donné comme instruction à Raymond Barre de lâcher les cordons de la bourse. Raymond Barre, vous avez grand argentier, un homme qui avait une rigueur de gestion qui était peut-être parfois assez sévère, assez dure, psychologique sur la dette. Raymond Barre a refusé de le faire. Résultat, Giscard perd l'élection. Alors, il le perd pour d'autres raisons. On se souvient des diamants, sauce de Bocassa. Enfin, il y a
non
tout
mais,
un
attendez,
contexte.
Non, mais
là,
que
fondamentalement,
la politique,
vous avez des contre-exemples. C'est le cas Giscard-Barre. Mais regardez ce qu'a fait Sarkozy. Il ne s'était pas permis d'aller jusqu'à lâcher autant tous les jours et de faire des papiers cadeaux.
Maxime Hiédot, qui a dit on s'en fout de
Mais on s'en fout sur toutes les querelles politiciennes et que Macron fasse ci et que Pécresse allait proposer ça, c'est peut-être très bien. Les Français jugeront dans 6 mois et même en décembre pour les électeurs LR. C'est très bien. Sauf que là, on parle quand même d'un vrai sujet. On parle des fonctionnaires et les supprimer. Je rappelle quand même que pendant que les salaires dans le privé ont augmenté de 4,8%, ils ont baissé de 0,7% dans le public. Donc ça, vous voyez, les fonctionnaires, on veut peut-être les supprimer, mais eux, au quotidien, sur leur fiche de paie, ils morflent. Et ensuite, quand Éric Zemmour dit qu'on fait du clientélisme, c'est pas totalement tort. Je me souviens d'Emmanuel Macron qui s'était présenté en tant que candidat et surtout en tant que président comme le gardien des comptes publics avec une rigueur budgétaire. Quand on se souvient qu'il y a 2 ans, ici encore, on analysait le phénomène des gilets jaunes, on entendait ces gens qui disaient nous ce qui nous intéresse finalement c'est pas tellement la fin du monde, c'est surtout la fin du mois. On leur avait refusé certaines primes, on leur avait refusé 200 balles, juste parce que eux n'arrivaient pas à remplir leur frigo, j'aimerais quand même le rappeler. Et aujourd'hui, alors pour les policiers, pour les enseignants, pour Marseille, on dilapide un argent dingue. Surtout, c'est comme la France 2030 quand on promet
avec
50 milliards
avec la dette. La raison de le
dire, c'est pour ça que je dis avec la dette. Surtout que, même quand on parle du prix de l'énergie, quand Jean Castex, il y a 2 semaines, était sur le même plateau.
Le choix qui a été fait, c'est on lâche.
Oui, mais même, c'est surtout que
les gilets jaunes et les gens qui disent on n'y arrive pas.
Non, mais j'aimerais sincèrement finir sur ça. Même quand on parle de l'énergie, quand Jean Castex dit qu'on va lisser le prix du gaz, il dit bien sur l'année, c'est-à-dire qu'on va devoir le rattraper. Donc quand on dit vous inquiétez pas, non, on va s'inquiéter parce que ça veut dire que dans un an, on va devoir payer la différence. Donc c'est reculer. Pour mieux sauter. Donc cette accumulation de choses, à mon sens, passe quand même largement au-dessus de Valérie Pécresse fait ça et Macron fait ça.
Une nouvelle pause et on se retrouve dans un instant avec Georges Fenech, Pupponi, François de son prénom, Patrick Karam, je vais aller un peu vite, et Maxime Hiédot, à tout de suite sur Europe.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes à table avec l'ancien magistrat Georges Fenech, avec le député du Val-d'Oise François Pupponi, le vice-président de Libre et de la région Île-de-France Patrick Karam et l'essayiste Maxime Hiédot. On entendait à l'instant Éric Zemmour dire que avec ce chèque de 100 euros, le gouvernement distribuait des bonbons avec la dette en prévision de la présidentielle. Il déclare ça alors que 57% des Français le trouvent inquiétant, Éric Zemmour.
Oui, mais regardez. C'est très intéressant sa réflexion. Et comparer sa réflexion avec celle de Marine Le Pen de manière plus générale sur le pouvoir d'achat. Marine Le Pen, elle a des CSP moins chez elle. Lui, c'est les CSP plus. Marine Le Pen parle à son électorat. Et elle dit...
Il n'y a que des CSP moins
dit, ouais. Globalement, on a fait quelque chose à la hache. Elle dit quoi, Marine Le Pen, dans toutes les interviews qu'elle a fait la semaine dernière, et puis là, une interview fleuve sur Valeurs Actuelles. Elle dit, en clair, Zemmour, lui, il n'a pas de cœur, il s'en fout du pouvoir d'achat, il est sur sa propre logique et son créneau. Moi, je m'occupe des Français, je m'occupe de leur pouvoir d'achat, je m'occupe de leur assurer un mieux-être. C'est ce qu'elle dit. Et effectivement, elle parle de sa retraite à 60 ans, et elle dit Zemmour, c'est 65, 67 ans. Elle parle du pouvoir d'achat, et elle dit Zemmour n'a aucune proposition là-dessus, et en disant qu'il faut aller étayer à la hache les dépenses de l'État. Ce que je veux dire simplement, c'est que la réflexion d'Éric Zemmour est tout à fait conforme à ce qu'on sait de lui.
Georges Fenech.
Sur ce sondage, vous avez dit 53% le trouve...
57, selon un dernier sondage, le trouve
inquiétant. Donc j'en déduis, comme vous tous, que 43% ne le trouve pas inquiétant. Ce qui est un score déjà très très élevé, n'est-ce pas?
Parce que vous êtes dans les 57 ou dans les 43?
Après, je trouve que ça n'intéresse personne.
La manière de botter en touche.
Je peux répondre. Je vais répondre d'ailleurs en réalité, puisque il faut savoir ce qu'on met derrière inquiétant. Inquiétant, est-ce qu'il est inquiétant pour le fonctionnement de notre démocratie? Est-ce que les Français sont inquiets d'une démocratie autoritaire, d'une atteinte
Vous l'avez trouvé inquiétant quand il a brandi une arme au salon de...
Là, effectivement, on peut dire inquiétant, de mon point de vue, c'est un discours qui est très anxiogène et donc inquiétant. Quand vous parlez du matin au soir de la disparition programmée de la France si on ne fait rien, quand vous entendez toujours parler de guerre de religion déjà présente sur notre sol... ça ne peut qu'inquiéter les Français, effectivement, et qui ont déjà ce sentiment diffus.
Ça peut les inquiéter dans un bon sens ou dans un mauvais sens, c'est-à-dire en se disant qu'il y a peut-être des réformes à faire.
Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on n'hystérise pas le débat. Ouais. C'est ça, surtout. Mmh. Qu'on ne crée pas des confrontations entre différentes communautés. Par contre, il faut... Là, le diagnostic est bon, et je pense que François Pupponi ne démentira pas là-dessus.
Bah, on va voir.
Il y a un problème de communautarisme contre lequel il faut lutter. Il y a un problème de repli, de séparatisme. Tout ça, personne ne le nie plus, à part quelques exceptions. Donc, mais jouer là-dessus pour créer un climat de guerre de religion, de guerre civilisationnelle, je dis que là, il faut être un peu calme et serein.
Le constat que fait Éric Zemmour sur un certain nombre de situations dans les quartiers, il a raison. Il ne fait que constater ce qui existe. Bon, après, là où il est inquiétant, ou moi je le trouve inquiétant, je fais partie des 57%, c'est sur les solutions qu'il priorise. D'abord, il considère que tout ça est le fait de l'islam et des musulmans. Bon, donc il stigmatise
la communauté. Là aussi, on y va à la hache, mais effectivement,
il
le dit beaucoup.
Il y a
deux
qui sont responsables de tout, et c'est pas la réalité, bien entendu. Et tous les musulmans sont bien sûr pas responsables de tous les maux de la France. Deuxièmement, sur les solutions, quand il dit parfois qu'il faut tous les renvoyer chez eux, et qu'on dit, mais attends, une partie, ils sont français, c'est pas grave. Et on fait comment? C'est-à-dire qu'on va enlever la nationalité des Français, voilà. Donc il y a dans ces solutions des choses qui sont inquiétantes, d'abord, qui sont impossibles à mettre en œuvre, mais qui sont inquiétantes. Effectivement, vous disiez, est-ce que vous avez été choqué par le fait qu'il vise un journaliste avec un fusil?
Mais plusieurs.
Mais oui, bien sûr que c'est inquiétant.
Vous n'avez pas trouvé ça drôle?
Pas du tout.
Pas
du tout. On ne brandit pas une arme vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, même pas pour rigoler. Mais je suis d'origine corse et je peux vous dire qu'on ne vise pas quelqu'un avec une arme, quoi qu'il arrive.
La situation est différente avec
un journaliste.
Non, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il ne sait pas déjà tenir une arme.
Qui ça, Éric Zemmour?
Éric Zemmour. Moi, j'ai fait mon service militaire, on apprend plusieurs choses. D'abord, tenir une arme, démonter, remonter, tirer. Lui, on voit bien qu'il a du mal. Deuxièmement, l'arme dont on parle, il dit assez lourd. Donc c'est avec ces petits biscottos que M. Zemmour qui s'érige en paragon de la virilité, il s'impose là. Moi, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que vous dites qu'il y a...
C'est un geste de très mauvais goût.
57%.
Sur un journaliste.
Vous dites que 57% des Français le trouvent inquiétant et en même temps, vous avez 61% des Français qui ratifient la thèse que Zemmour a enfourchée aujourd'hui du grand remplacement. Il y a quand même une contradiction. Deuxième contradiction, c'est que pour les Français, qu'est-ce qui vient en tête de leurs préoccupations? Le pouvoir d'achat, 41%, c'est le dernier sondage. Deuxièmement, l'environnement, 30%. Après, vous avez l'immigration, la délinquance, et tout de suite après, les inégalités sociales et le système de santé. Ce que je veux dire, c'est que la gauche devrait avoir un vrai boulevard. Et qui tient le haut du pavé aujourd'hui? Et qui fait le show? Qui fait le spectacle? en faisant ce qu'il a fait là. L'histoire de l'arme, il savait très bien...
Mais c'est quoi votre conclusion?
Eh bien, moi, je pense qu'il fait de la provocation. Je dis simplement, c'est un épiphénomène et nous verrons si ça va s'inscrire dans le temps. Une fois qu'on sera réellement dans le dur de la campagne, nous verrons...
Pour l'extrême droite, c'est plus l'épiphénomène.
Zemmour, je considère que c'est le meilleur ennemi de Zemmour. Parce qu'il sort un certain nombre de parfois des choses qui peuvent choquer.
Il y a plusieurs choses intéressantes avec le phénomène Zemmour. La première chose, c'est que c'est déjà très stupéfiant de voir que sous prétexte que depuis quelques mois, Éric Zemmour met des sujets sur la table, il ne faudrait pas en parler parce que ce serait faire le jeu de Zemmour, même sur des constats qui sont normalement la norme depuis des années, c'est-à-dire le déclassement de l'éducation nationale, le déclassement de la France à certains rangs, notamment économiques. Ça devrait faire un constat, on va dire, général chez tous les politiques. Quand on voit aujourd'hui certains dirigeants dire « Ah oui, non, mais moi, je ne pense surtout pas ça parce que c'est la même pensée qu'Éric Zemmour », c'est vraiment le degré zéro.
Vous faites allusion à ce journaliste du service public qui a dit « Ah ben non, il est, de toute façon,
non,
il n'est pas invité ici. »
Mais quand je vois la gauche, je suis bouché le nez quand on dit...
Ça va être notre argent quand même hein, qu'il fait ça.
Non, mais
c'est
quand,
ça qui est très grave.
Oui, mais après, il a corrigé son tir, donc c'est
enfin,
pas grave.
La radio du service public, c'est 600 millions d'euros du budget quasiment de l'État.
Ça tombe bien parce que là, c'était pas la radio, c'était la télé. Et la deuxième chose, c'est aussi de dire qu'on le trouve inquiétant et on dit oui, mais vous comprenez. Il joue sur la peur des Français, mais il joue aussi peut-être sur un sentiment réel des Français. Oui, on a bien vu ces derniers mois, quand 75% des Français estiment que leur propre pays est en déclin, c'est quand même fondamental et c'est une donnée à prendre en compte.
Vous en êtes où, là, d'ailleurs, de vos calculs de puissance du monde là?
On est la cinquième, donc c'est encore pire que ce que je pensais. Je nous classais humblement septième.
Oui. C'est mieux pour la France, mais c'est pire. Économique, puissance militaire.
Je parle de puissance économique, cinquième puissance économique, mais c'est encore pire dans mon raisonnement. Ça veut dire que la cinquième puissance économique du monde est obligée de distribuer des aides de l'État pour qu'on puisse rouler ou se loger ou se chauffer normalement. Fin sur cette parenthèse, et je termine sur ça, qu'il y a une note, en effet, de la Fondation Jean Jaurès qui explique très bien que le sentiment de déclin est partagé dans énormément de rangs de la population et de plus en plus chez les jeunes. Et ne pas voir cette réalité sous prétexte qu'Éric Zemmour l'évoque ou prétend incarner la solution à ça, à mon sens, c'est très dangereux.
Non, c'est pas ça le sujet. Moi, je considère effectivement qu'il apporte dans ce débat-là une autre voix, et il faut l'entendre. Il apporte effectivement, et sur un certain nombre de thématiques, il apporte sa propre vision des choses, et c'est important qu'il soit dans le débat. Je considère que c'est utile. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrête les coups sous la ceinture et qu'on l'attaque sur les projets. Quel projet il a?
Il a raison, Maxime, vous l'avez attaqué
sur les biscottos. Non, mais c'est biscottos, c'est pas sous la ceinture, c'était de l'humour.
Il fait de l'humour. Vous avez parlé de Marine Le Pen, c'est la seule chose intelligente, c'est de l'humour.
Non, mais pardon. Zemmour qui fait de l'humour avec des journalistes, je peux en faire avec lui.
François Pupponi, on ne trouve pas que c'est de l'humour.
Non, mais je suis d'accord, c'est pas drôle. J'ai fait mon service militaire.
J'ai fait mon service militaire. Je ne le dis pas à tout bout de champ, Patrick.
Jamais braquer une arme sur qui que ce soit. C'est interdit. Et puis je suis allé dans des pays en guerre, contrairement à Zemmour et à d'autres. J'ai subi en Tchétchénie, mais il faut le dire, dans toute une série de pays en guerre, j'ai subi le pire. J'ai vu le pire. Voyez, et moi, les armes, on plaisante pas.
Donc c'est pas drôle, je suis d'accord avec François Pupponi.
Alors oui, mais je vais pas en faire une histoire. Ce que je veux dire, c'est que cette affaire-là, moi, je pense qu'il faut l'attaquer plutôt soit ce qu'il dit. Ce qu'il dit sur Vichy, ce qu'il dit sur l'islam, ses relations malsaines avec Tariq Ramadan, parce que Zemmour l'embrasse dans ses échanges de tweets, Zemmour lui envoie ses amitiés.
Donc,
c'est sur ça qu'il faut. C'est sur ça qu'il faut remettre en question Zemmour et pas sur des provocations qu'il fait.
Attendez, vous parlez tous en même temps.
Des provocations qu'il fait simplement pour que vous en parliez.
François Pupponi va vous répondre.
Il faut l'attaquer sur le fond, ce qu'il dit, et moi je dis que ces solutions, elles me font peur. Et donc je condamne, je critique ces positions et ces propositions. Il n'empêche que quelqu'un qui veut être président de la République dans 6 mois, qui est capable de prendre une arme pour le pointer sur le journaliste, ça me fait peur. Voilà, je ne vais pas vous dire que c'est anodin. Bien entendu qu'il faut l'attaquer sur ces pollutions, sur ces positions. La force de Zemmour, c'est qu'il est capable de parler de vrais sujets qui concernent des Français. Il dit des choses qui parlent aux Français.
Comme quoi?
Sur la situation dans certains territoires, sur le problème du remplacement, le problème du déclassement. Bien sûr que ça parle aux Français, parce que c'est une inquiétude pour eux. Ils le vivent. Donc ils disent, lui, au moins, il nous parle de choses qu'on ressent.
Ah, c'est intéressant, ça. Je viens d'entendre de votre bouche ancien socialiste, grand remplacement.
Oui, oui,
donc
sûr.
Vous pensez qu'il y a un grand remplacement
dans certains quartiers, oui.
Ah ben voilà, mais nous sommes d'accord.
Mais pourquoi j'ai quitté le Parti Socialiste?
Le problème, c'est que les socialistes aujourd'hui, toute la gauche en général, toute la gauche est dans le déni. Quand vous parlez de grand remplacement, c'est tout de suite du racisme. On vous traite de raciste. Oui, mais c'est intéressant. C'est la première fois que je l'entends le dire.
Moi non,
c'est la première fois.
J'ai même écrit deux livres là-dessus.
Vous auriez dit la même chose il y a deux ans, trois ans.
Ça fait 3-4 ans, 10 ans que je dis, moi.
Quand vous étiez maire de Sarcelles, puis député, là, vous n'aviez pas...
Je disais, est-ce que je le vivais, j'ai même écrit...
Georges Fenech.
Je suis pas sûr qu'on l'aura...
Vous avez écrit noir sur blanc, grand remplacement.
J'expliquais comment les quartiers...
Vous continuerez votre discussion en antenne, Georges Fenech.
Je suis pas sûr qu'effectivement, François Pupponi aurait utilisé ce terme-là il y a deux ans, de grand remplacement qui était l'exclusivité d'un certain Renaud Camus, par exemple. Même à droite, on n'avait jamais parlé de grand remplacement, jamais.
Non, mais bien sûr,
vous ne l'avez pas écrit dans votre livre, François Pupponi.
On a mis un mot sur un phénomène que je dénonçais, et ça s'appelle le grand remplacement.
Mais vous ne l'aviez pas appelé comme ça à l'époque.
Non,
mais c'est ce qu'on essaye de savoir.
Non, mais bien sûr que non, je ne l'ai pas appelé comme ça. Mais j'expliquais comment ces quartiers avaient basculé.
Mais vous voyez bien que l'idée, elle diffuse. Elle diffuse un peu quand on voit les sondages. Moi, je dis très franchement, le grand remplacement, il y en a eu dans l'histoire. Ça a été... l'élimination physique des Indiens d'Amérique, par exemple, par les Espagnols, les Portugais. Il y a eu d'autres grands remplacements de ce type. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que le terme, moi, grand remplacement, me gêne beaucoup. Il y a un problème, effectivement, d'immigration incontrôlée. On a ce problème-là. On a un problème aussi de communautarisme. On a un problème de séparatisme par rapport aux lois de la République et de laïcité,
et
notamment.
Et d'ailleurs, il y a une loi en ce moment là-dessus.
Ça ne veut pas dire que la France va disparaître. Il y a une loi, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut employer tous les moyens du droit et pas des moyens excessifs et qui nous feraient sortir, je dirais, du concert des nations où on va jeter à la mer je ne sais qui. Non, il faut véritablement revoir toutes nos politiques d'intégration et d'assimilation. Ça, c'est un mot, je pense que François Pupponi pourra l'employer aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Mais c'est comme ça qu'il faut lutter contre ces ferments de séparatisme.
Oui, mais Georges,
le grand remplacement, moi, j'y crois pas trop. Hein. Franchement, la France, elle existe, elle existera
toujours.
Dans certains
territoires, oui.
On se retrouve après le journal de 19h avec notamment cette grande enquête du Pèlerin en partenariat avec Europe 1 auprès des catholiques de France. Comment vont-ils peser dans la présidentielle? On est en compagnie de François Pupponi, Patrick Karam et l'essayiste Maxime Yédo. À tout à l'heure.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble avec Georges Fenech, ancien magistrat, avec François Pupponi, député Modem du Val-d'Oise, apparenté Modem, et l'essayiste Maxime Yédo. Et nous recevons Samuel Liévin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la rédaction du Pèlerin qui, en partenariat avec Europe 1, réalise cette enquête cette semaine avec à la clé un sondage exclusif IFOP, les catholiques et la présidentielle, un dossier très très complet. Mais d'abord, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au vote catho?
Bah parce que les cathos, ils sont, c'est vrai, de plus en plus minoritaires dans la société, en tout cas ceux qui se disent catholiques, mais c'est un électorat qui est traditionnellement, qui vote et qui est engagé dans la société. Ce qui fait que surtout...
Plus que les autres ?
Plus que les autres, beaucoup plus que les autres. C'est vrai vraiment sur tous les plans, à la fois l'engagement et le vote. Et donc, en période de fièvre abstentionniste, ils sont toujours très, très courtisés.
Même au dernier régional où ça a été l'hécatombe en matière d'abstention.
Oui, on mesure à chaque fois des taux de participation plus importants.
Ouais, et alors, le portrait robot du catholique qui vote, d'ailleurs, j'ai vu dans le sondage que vous avez pris 88% de catholiques non pratiquants.
Bah parce que ça reflète la réalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés dans le fait d'être catholique, on peut se dire catholique et pour autant ne pas aller à la messe, c'est même le profil le plus courant. Et puis vous avez une très petite minorité qui y va tous les dimanches, alors là on arrive même à des fourchettes qui sont presque difficiles à mesurer, autour de 2%. Et puis vous avez ceux qui pratiquent un peu plus régulièrement, donc là on est entre 5 et 10%. Donc
5 et 7, c'est ceux qui font un dimanche sur 4, c'est ça?
Voilà, ou les grandes
ou
fêtes,
les grandes fêtes, voilà. Pâques, Noël, etc.
Voilà, qui gardent un minimum d'ancrage dans la vie du catholicisme.
Il y a une donnée qui n'est pas claire, c'est combien il y a de catholiques en France? Moi, je disais un tiers, mais c'est vrai que c'est le chiffre qui revient assez souvent. Est-ce que c'est un chiffre qui est correct?
Dernièrement, il y a eu un sondage, IFOP aussi d'ailleurs, qui mesurait 49% de croyants. Alors, parmi ces croyants, on mettait une grande majorité de catholiques, donc 90%. Voilà, et c'est un chiffre qui était encore à 56-57% il y a une dizaine d'années. Voilà, mais là, on est encore une fois, on est plutôt sur un échantillon classique de sondage, mais assez fragile, de 1000 personnes. Il faudrait voir un peu plus, mais grosso modo, on est là-dessus, une petite moitié.
François Pupponi, je vous voyais opiner du chef quand Samuel Lié vient donner ses
oui,
chiffres.
Ça me faisait sourire parce que j'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans et je présidais donc le jour des élections le bureau de l'hôtel de ville, le bureau numéro 1, qui était juste en face de l'église. Et donc, effectivement, on attendait impatiemment la sortie de l'église parce que c'était les gens allaient à 11
l'église. 11h ou midi, ça dépend.
Et ils venaient voter.
Ouais. Et tout de suite.
Alors, c'était limpide.
Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette enquête, Samuel Lié?
Elle nous apprend d'abord que les catholiques, ils font partie de la société française. Et à ce titre-là, ils ne sont pas très loin de l'état d'esprit des Français aujourd'hui, à 6 mois de ces élections. Et donc, ce qu'on a notamment remarqué, c'est que les grandes priorités de cet électorat, elles se calent à peu près sur celles des Français. Quand on sort du Covid, ce n'est pas très étonnant, c'est la santé en tout premier. Mais juste derrière, on a la sécurité et la lutte contre le terrorisme. On a la lutte contre la délinquance, même un peu devant d'ailleurs le reste des Français. Et puis, surprise quand même, parce que finalement on est assez loin des préceptes évangéliques qui aussi ont nourri une tradition d'engagement, toujours aujourd'hui d'ailleurs dans la société, la question de l'environnement, de la question aussi de l'accueil des migrants, tout ça, ça vient loin. Quoi. Ça vient loin derrière.
Il y a une donnée également intéressante dans l'enquête que vous publiez, on parle beaucoup d'Éric Zemmour.
C'est le penseur de Rodin. Pour ceux qui le voient à l'image, il est toujours comme ça, en train de tenir sa tête.
Non, mais il y a une jeune femme que vous interrogez, qui est croyante, qui explique qu'elle, son but, c'est de faire barrage à l'extrême droite. Mais on voit aussi qu'il y a quand même au sein des catholiques une tentation Zemmour. Comment expliquer un peu ce paradoxe ou comment tout simplement expliquer la volonté de se diriger vers Éric Zemmour?
C'est pas qu'il y a une volonté partagée de se diriger vers Éric Zemmour, c'est que on se pose un petit peu les questions sur comment un électorat qui a été, qui a en grande partie voté pour Fillon en 2016 lors de la primaire, comment est-ce qu'il va se partager aujourd'hui? Et puis là, il y a un attentisme, c'est-à-dire qu'on attend ce qui va sortir du panier de la droite. Il y a notamment Barnier qui est attendu sur les questions de famille. On sait aussi qu'il y en a une fraction qui sont tentées par Zemmour. Notamment chez les plus jeunes, c'est quand même un électorat plutôt jeune. Il y a aussi, de toute façon, on l'a mesuré chez cet électorat catholique, plus on est jeune, plus on veut, en gros, faire correspondre les convictions et le vote. Plus aussi il y a une exigence de radicalité, voilà. Et puis une fraction qui est déjà au Rassemblement National, et ceux-là sont attentifs soit à des questions plutôt d'ordre d'identité nationale, qui sont donc réceptifs à ce qui domine le discours à la fois de Le Pen et de Zemmour. Et puis certains, c'est davantage la bioéthique, tout ça, mais on a quand même remarqué que la bioéthique, finalement, c'est intéressant, arrive en queue de préoccupations sur les priorités pour cette élection.
Vous dites que c'est étonnant parce que c'est contrairement, j'allais dire, aux apparences, contrairement aux idées reçues.
Disons qu'on voit bien qu'il y a une décennie là où il y a eu le mariage pour tous, en 2013, il y a vraiment eu là pour le coup chez les catholiques une vraie, une grosse division. Et puis derrière, il y a eu les dernières lois de bioéthique qui sont passées. Donc quelque part, les catholiques là-dessus ont comme intégré leur mise en minorité, quoi. Ils ont là-dessus comme si quelque chose s'était un peu presque détendu. Ils ont pris conscience qu'ils sont désormais dans une société qui ne va plus forcément puiser ses références premières dans le catholicisme.
Voilà une première présentation de cette étude de Les catholiques et la présidentielle. On continue d'en parler juste après une pause avec Georges Fenech, François Pupponi et Maxime Yedo. Et bien sûr, vous, Samuel Liévin, directeur de la rédaction de Pèlerin. À tout de suite.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Les débats d'Europe Soir, encore une demi-heure jusqu'à 20h en compagnie de Georges Fenech, François Pupponi, Maxime Yedo et Samuel Liévin, le directeur de la rédaction du Pèlerin, pour cette grande enquête en partenariat avec Europe 1, les catholiques et la présidentielle. Georges Fenech.
Oui, moi je m'interroge, est-ce qu'il existe vraiment un vote confessionnel catholique, un profil type? Vous avez rappelé que déjà, les catholiques se sentent minoritaires après avoir perdu deux grandes batailles ces dernières années, le mariage pour tous et la PMA qui vient d'être adoptée. Mais quand on voit votre sondage, il y a 5% seulement des catholiques qui disent lier leur foi à leur vote. C'est ça qui m'a aussi interpellé.
Alors ça, c'est intéressant. Il y a vraiment là-dessus un effet de génération. les gens pour qui le rôle de la foi est important, c'est les jeunes. Alors, je rectifie juste, c'est 23% hein, ouais. qui disent ça. C'est 23%.
23%, voilà. Effectivement, rôle de la foi dans le vote, 77% disent non. Hein, donc,
voilà. Ça, c'est sur l'échantillon général. Après, c'est vrai que plus de 65 ans, c'est 19%. Moins de 24 ans, c'est 44. Donc là, c'est énorme. C'est-à-dire que les moins de 24 ans, on sent bien qu'il y a chez eux une exigence de cohérence. Alors après, elle peut porter sur des thèmes divers. Vous allez trouver plutôt à gauche des jeunes qui, parce qu'on en a rencontré, qui militent de partout, en fait, hein, de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national. Et donc, ils vont être plutôt sur soit une sensibilité solidarité, justice sociale, ou de l'autre côté, plutôt identité nationale. Voilà, donc on trouve absolument de toutes les sensibilités.
On a interrogé les catholiques sur les candidats potentiels. On a parlé tout à l'heure de Zemmour. Vous avez un peu évoqué Marine Le Pen. Est-ce qu'on a parlé des autres ?
Comme le paysage est encore loin d'être constitué, on trouvait que c'était pas pertinent, ce qui fait que...
On a des projections.
Voilà, on n'a pas ces chiffres-là, on n'a pas chiffré ça, on n'a pas demandé, on n'a pas chiffré en gros les tendances, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les candidats. C'est pour ça qu'on a eu un traitement hors enquête chiffrée, un traitement plus éditorial en rencontrant des électeurs.
Il y a une catégorie de catholiques qui est souvent citée, c'est les fameux cathos de gauche. Comment est-ce qu'ils réagissent sur cette présidentielle-là, en l'occurrence ?
Alors, les cathos de gauche, en soi, c'est quand même une catégorie qui est un peu en voie de
disparition.
Vous avez toujours
on disait souvent que c'était ceux qui lisaient la croix.
Alors, ça, c'est... aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué, parce que la croix, c'est vrai, a représenté un catholicisme pendant très longtemps, au XXe siècle.
Progressiste.
Ouais. Qui considérait que le ralliement à la modernité qu'entérinait le Concile Vatican II hein, dans les années 60 valait engagement dans la société, notamment à travers l'action catholique, donc auprès des ouvriers, auprès de toutes les catégories de la société. Donc ça donnait un profil dominant du catholicisme qui était effectivement plutôt à gauche.
Moderne.
Aujourd'hui, évidemment, ce lectorat et cet électorat a évolué. Et aujourd'hui, on le sait bien que le centre de gravité du catholicisme, il est à droite, et que donc le lectorat, je dirais, des grands journaux catholiques a évolué aussi. Georges ?
Oui, moi j'ai une question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que vous pouvez mesurer aujourd'hui la réaction du français catholique par rapport à la dernière loi, et donc vis-à-vis d'Emmanuel Macron, sur le dit de séparatisme et qui a quand même accru considérablement les contrôles sur les cultes et les lieux de culte. Au départ, on comprend bien que c'est la question de l'islam, des mosquées, du financement, etc., mais qui, par ricochet, évidemment, impacte aussi beaucoup les autres cultes, et notamment le culte catholique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de rancœur, je ne sais pas, ce n'est pas le terme, vis-à-vis du président de la République ?
De déception.
Déception. En plus, il y a eu la question de l'instruction à domicile aussi, auquel les catholiques sont très attachés. Toutes ces questions-là, sociétales, et des rapports entre l'État et les cultes, est-ce que finalement, le catholique français le vit comment, quoi ?
Alors, le catholique français, c'est toujours délicat de
faire un seul portrait robot.
Voilà, de faire un seul portrait robot, parce qu'encore une fois, même si on sait que le centre de gravité de cet électorat est à droite, encore une fois, ça reste un électorat malgré tout très divers. Après, je dirais, les catholiques attachés à l'enseignement à domicile, je dirais, c'est une petite fraction des catholiques attachés à l'enseignement à domicile. Une autre grande partie sont tout simplement attachés à la liberté de l'enseignement, ça veut dire inscrire leurs enfants dans l'école privée catholique, dans les écoles privées catholiques, qui représentent à peu près 20% des élèves en France. Donc voilà, c'est quand même assez diversifié. Après, c'est vrai que, à commencer par l'institution elle-même, hein, l'épiscopat, ça a été assez mal pris, cette tentation de mettre les cathos en gros dans le même sac que d'autres minorités religieuses. On pense en particulier à l'extrémisme islamiste, menace la République. Il est évident qu'avec 130 ans, 120 ans de laïcité au compteur, le danger aujourd'hui ne vient pas de l'Église catholique. Donc, effectivement, ça a été assez mal perçu.
Est-ce qu'il n'y aura pas, en termes de vote, justement, une répercussion dans leur vote, quoi ?
Alors, on a plutôt observé aux dernières européennes un début de ralliement d'une bonne partie de l'électorat catholique, quand même, à Macron. Est-ce que ça va se confirmer à la présidentielle, à voir. Et puis, y a ceux qui n'ont jamais vraiment senti le macronisme, qui ne voient d'ailleurs pas trop à quoi ça ressemble, qui voient plutôt une forme d'opportunisme, de gros clin d'œil appuyé, comme d'ailleurs le discours du Premier ministre lundi dernier au Vatican, qui était quand même vraiment dans une espèce de récupération assez maladroite, de tentative un petit peu balourde.
C'est comme ça que ça a été perçu ?
Oui, quand même. C'était pas extrêmement fin. Et ça, l'électorat catholique est assez sensible à ces appels du pied quand ils sont pas très fins. Et en général, quand on essaye de l'attraper, c'est un peu comme les mouches avec du vinaigre, ils s'en rendent compte. Quoi.
Merci pour la comparaison, François Pupponi.
Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la loi sur le séparatisme. Et effectivement, moi, j'avais rencontré Mgr Lalanne, qui était à l'époque responsable de la conférence des évêques. Les catholiques n'ont pas bien vu le coup venir. Ceux qui avaient vraiment compris que la loi allait s'appliquer à toutes les religions, y compris à la communauté juive, communauté catholique ou à la religion protestante, c'est les protestants qui l'ont vraiment compris. Les autres n'ont pas imaginé que ça allait les concerner. Et quand ils ont découvert vraiment le texte, au dernier moment, ils sortent, d'où une fameuse réunion qui a eu lieu à l'Élysée, à la demande d'Emmanuel Macron, pour dire qu'est-ce qu'on peut. Mais malheureusement, on ne pouvait pas légiférer pour une seule religion. Bon. Et effectivement, ils vont être confrontés. Moi, par contre, j'ai été souvent confronté à des difficultés avec la conférence des évêques, parce que, par exemple, il y avait l'exemple de gens qui étaient fichés S et qui pouvaient enseigner dans les écoles hors contrat. Donc à chaque fois que j'ai essayé de légiférer pour restreindre les capacités d'enseigner...
En tant que député.
De restreindre les capacités d'enseigner ou de diriger une école hors contrat, c'est la conférence des évêques qui montait au créneau en disant « Vous attaquez la liberté d'éducation et donc vous nous attaquez. » Alors je disais « Non, c'est pas... Bon, » ouais. Mais effectivement, c'est compliqué parce que quand on fait la loi pour s'attaquer à ce qui attaque la République... Malheureusement, ça concerne tout le monde.
C'est un problème global.
Et c'est un problème global. Et ça a été mal perçu, effectivement, par l'ensemble des grandes religions, mais y compris la religion catholique. Alors, je pense que les rendez-vous avec Macron ont plutôt rassuré un peu tout le monde. Mais
oui,
après, l'application de la loi, en particulier, on doit augmenter, d'ailleurs, c'était promis dans la loi de finances, on doit augmenter la déductibilité des dons pour les religions. Hein. Ça avait été un peu promis par Emmanuel Macron en disant on le fera.
Oui.
Oui.
Et puis, pas non plus ne pas vous interpeller sur la fameuse commission Sauvé.
Jean-Marc Sauvé.
Et la pédocriminalité, donc, dans l'Église catholique, tout ce que nous avons appris est effrayant, quoi. Est-ce que ça a un impact aussi ?
La réaction catholique est unanime.
Ouais. Évidemment, là-dessus, c'est un choc immense, même si, quelque part, on le sentait arriver, parce que ça fait quand même une quinzaine d'années que les affaires sortent un peu partout dans le monde, que c'est vrai, en France, il y avait cette idée répandue et puis soutenue par l'institution que la France ne serait pas concernée de la même manière que l'Irlande ou l'Allemagne ou d'autres pays où il y avait des structures d'encadrement puissantes de la population. Et puis en fait, on s'aperçoit effectivement avec la commission Sauvé qui a quand même été demandée par les évêques. C'est ça qui est quand même, il faut quand même le souligner. Voilà, ça a été demandé par les évêques eux-mêmes de faire toute la lumière en donnant les clés à une commission indépendante qui a réuni, je dirais, des moyens transdisciplinaire sans précédent pour pouvoir y arriver avec quelqu'un de très sérieux comme Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, lui-même croyant. Et voilà, donc on arrive à ces chiffres qui sont évidemment accablants. Alors cette commission... elle a quand même, déjà je parle pour les lecteurs, ça c'est très intéressant, au niveau du courrier, on a un fort, au Pèlerin, on a un fort lien avec nos lecteurs, on reçoit beaucoup de courriers. Là, on n'a pas reçu une seule lettre, il y en a qui écrivent encore, mais aucun mail, aucune réaction, dans le sens, vous en parlez trop, vous tirez sur l'ambulance, etc. Ce qu'on pouvait encore parfois avoir, parce que quand on sortait des affaires, c'était pris comme une sorte de lynchage avec la majorité. Là, aujourd'hui, tout le monde a compris.
Conscient.
Et ça, que ce soit en mode, dites-nous ce qu'il faut faire, ou en mode... un peu de désespérance, ou en mode, au contraire, maintenant, il faut y aller, il faut changer les choses dans l'Église. On n'a vraiment que du courrier qui adhère. Et ça, je pense que c'est vraiment à l'image de l'ensemble des catholiques qui aujourd'hui, saluent ce travail. Et ce travail qui, d'ailleurs, je pense, met l'accent sur, effectivement, que l'Église catholique est le deuxième univers où il y a eu, donc, où ces abus ont été commis.
Après l'école, je crois.
Alors le premier, c'est la famille
d'abord.
Le premier, c'est la famille, et loin devant. Oui. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience dans la société. via notamment ce rapport qui va quand même faire date dans ce processus de prise des consciences, non seulement dans l'Église, mais aussi dans la société, qui a un problème de prédation à l'égard des plus fragiles. Pour l'Église, c'est un contre-témoignage accablant. Quand la raison d'être de l'Église est la protection des plus fragiles et que finalement l'institution elle-même agresse dans des proportions qui à la fois sont énormes, hein, puisque ça, d'après l'enquête de l'INSERM, ça monte à plus de 300 000 ouais. si on compte oui. tout oui. le...
Les voilà. éducateurs et voilà. pas seulement les hommes d'église.
Voilà, ouais. sur 70 ans. Donc ça, c'est quelque chose effectivement de... C'est un chiffre énorme. Mais on sait que le taux de ce qu'on appelle de prévalence dans la famille est encore beaucoup plus élevé. Et donc là, il y a...
C'est un sujet que vous aviez abordé dans le journal il y a quelques années déjà.
Évidemment, on l'abordait en fait régulièrement, soit quand des affaires sortaient, soit nous-mêmes pour faire des enquêtes. On a même vu un petit peu finalement les choses arriver.
C'était possible de le faire ou il y avait quand même oui. quelques difficultés à
C'était
à
pas
parler.
Naturel. Je me souviens d'une enquête que j'avais faite à l'époque. J'étais reporter en 2012. C'était l'époque où, en fait, Benoît XVI, le pape précédent, commençait déjà à faire un peu le ménage dans l'Église et ça partait du haut, parce que lui avait été conscient déjà, même quand il était j'allais dire numéro 2 hein, derrière ouais. Jean-Paul II, ouais. était conscient de la catastrophe et donc avait commencé à agir en coulisses, mais c'était pas évidemment très efficace. Là, l'idée, c'était d'engager tous les évêques, à la suite notamment des scandales en Irlande et aux États-Unis d'agir.
L'affaire du Boston Globe aux États-Unis au voilà. début du 21e siècle.
Exactement. Hein. Donc ouais. Là, on était en début des années 2010, ça commençait à sortir de partout. Voilà, et Benoît XVI avait du mal à faire agir les évêques, tous les épiscopats du monde entier, mais il y avait déjà une volonté de changer les choses. Et à ce moment-là, on avait notamment fait un volet français à l'intérieur de cette enquête un peu plus mondiale. Quoi. Et en France, on avait déjà des interlocuteurs qu'on revoit beaucoup aujourd'hui, la sœur Véronique Margron, la dominicaine, Stéphane Joulin, qui est un religieux spécialiste de ces questions, était un peu seul à l'époque à expliquer que, en fait, s'il y avait beaucoup plus d'affaires en France que ce qu'on imaginait, que c'était plus que deux ou trois cas isolés, qu'il fallait que l'épiscopat en prenne conscience. Et à l'époque, on l'avait écrit et c'est vrai que ça n'avait pas tellement plu. Voilà.
Enquête sur les catholiques de France, sujet passionnant. On en parle avec Samuel Liévin, directeur de la rédaction du Pèlerin, en compagnie aussi de l'ancien magistrat Georges Fenech, avec également le député François Pupponi et l'essayiste Maxime Yédo. A tout de suite dans les débats d'Europe Soir.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Georges Fenech, François Pupponi, Maxime Yédo et nous accueillons Samuel Liévin, le directeur de la rédaction du Pèlerin. Juste avant la pause, nous évoquions effectivement toutes ces affaires de pédophilie dans l'Église et la façon justement dont les deux derniers papes ont avancé sur le sujet. Est-ce que, et ça c'est une question qui se pose régulièrement dans la presse ou ailleurs d'ailleurs, c'est est-ce que les catholiques, à cause de ces affaires-là, ne sont pas de plus en plus marginalisés dans la société?
Alors ça, c'est vrai que ça aide pas. Vraiment, vous avez déjà le christianisme, le catholicisme qui, d'une manière générale, a tendance à se rétrécir, voire à s'évaporer. Ceux qui restent pour occuper le terrain, par leur engagement, souffrent de ces répercussions, évidemment, parce que ça atteint très fortement l'image de l'Église auprès d'une opinion qui, en plus, n'est plus en partie anticléricale, comme ça pouvait être le cas dans la tradition française.
Il y a des pertes de foi, parfois. Alors, évidemment, il y a les victimes, et ça a été le cas quand on a eu les victimes du père Prénat, qui du jour au lendemain, évidemment, ont eu un dégoût de la religion, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Ouais. Et il y a effectivement une répercussion ailleurs. Quand on lit des affaires comme ça, on peut se dire que finalement...
Alors, c'est ce qu'on appelle plutôt les départs sur la pointe des pieds, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a certains que ça décourage au point qu'ils se disent « bon, en fait, on lâche l'affaire ». Après, ça concerne moins quand même ceux qui... Enfin, c'est cette petite minorité de catholiques très pratiquants, très engagés, où là, on prend plutôt la vague de face, on essaie de s'accrocher, de tenir... Et puis il y a aussi, d'après ce que je peux entendre, il y a aussi chez certains cette tentation de se dire oui, c'est vrai, tout ça existe, tout ça est déplorable, il faut que ça change. Mais en attendant, voilà, c'est pas moi. Alors ça, à la fois ouais. on peut le comprendre et en même temps ça pose aussi problème. Parce que là, il y a besoin de cette prise de conscience générale pour vraiment changer le rapport au prêtre, le rapport à l'autorité dans l'Église.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution, j'allais dire, au sein même de la vocation de prêtre? Parce que, aujourd'hui, finalement, ceux qui le deviennent
n'ont plus exactement ni le même profil qu'en 1950, par exemple, ni la même vocation, d'une certaine manière.
La question du célibat aussi.
Bien sûr, ben ça c'est encore un autre problème. Mais est-ce que sur le profil déjà, ceux qui aujourd'hui entrent au séminaire n'entrent pas au séminaire pour les mêmes raisons qu'ils rentraient au séminaire dans les années 50 ou 60, parce que il y en a qui rentraient au séminaire parce que c'était comme ça.
Bah, notamment, ce que vous dites là, ça me fait penser aux petits séminaires qui étaient les structures qui accueillaient les séminaristes dès la sixième. Donc, une vocation mûre dès la sixième, c'est quand même assez rare.
C'est étonnant.
Voilà, ce qui fait qu'effectivement, ces établissements ayant disparu, aujourd'hui, on n'est plus du tout sur le même type de vocation. Alors, après, on a vraiment tout type de vocation, quand même, malgré tout. Il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup moins. Et donc, on a affaire à un profil de prêtre qui évolue, à une formation qui a commencé d'évoluer, mais qui doit encore faire d'énormes efforts pour prendre en charge tout l'aspect, psycho-affectif lié à la solitude.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un prêtre qui rentre au séminaire, c'est qu'il le veut. Vraiment, je ne dis pas que ceux des années 50 ne le voulaient pas, mais il y a quand même une évolution là-dessus, vous êtes d'accord ?
Alors, il y a une évolution. Alors, je dirais qu'il y a d'abord une chose à rétablir. C'est vrai que si on parle, comme tout à l'heure, d'une estimation de 300 000 victimes, ça correspond à 3% du clergé.
Absolument.
3% du clergé identifié depuis 1950, donc sur 120 000 à peu près membres du clergé, ça veut dire quand même qu'il y en a 80...
Après, ce n'est pas une enquête définitive non plus.
Alors, elle peut encore évoluer, mais enfin, elle est quand même sur 30 000. L'enquête de l'INSERM, elle est sur 30 000 personnes, donc c'est quand même une enquête assez précise, ça fait 97% du clergé quand même qui n'a pas commis d'abus sexuels. Ça, faut quand même, ça permet de le mesurer aussi dans l'autre sens. Maintenant, le problème, c'est qu'on sait que ces abus ne diminuent plus, même si le nombre s'est effondré depuis les années 90. Donc, ça veut dire que c'est toujours un problème aujourd'hui. Et donc, ce problème, il faut le prendre à la racine. Et l'une des racines, c'est quand même la formation.
Et c'est très important ce que vous dites. Georges Fenech, effectivement, vous avez raison de poser cette question sur le célibat des prêtres.
Oui, mais j'aimerais bien, effectivement.
Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, en fait. La Maroc, on est là. C'est la seule religion où. Enfin, corrigez-moi, je pense. C'est la seule religion où il existe ce célibat.
Alors, le célibat, c'est pas un dogme, c'est une tradition millénaire.
Oui, oui. Hein,
c'est une tradition millénaire. C'est vrai qu'il y a des prêtres qui se marient dans les autres traditions chrétiennes, qu'elles soient orthodoxes, qu'elles soient.
Les Chaldéens, par exemple, ils se marient.
Exactement. Alors, ça, c'est vrai chez les orthodoxes, sauf qu'on peut plus se marier une fois qu'on est prêtre, faut le faire avant. Chez les protestants, il y a parce que c'est pas un sacrement, en fait. Il y en a même chez les catholiques, qui viennent, en fait, des prêtres convertis d'autres confessions chrétiennes. Donc, ça, c'est quelque chose qui, au niveau de l'Église, est un débat déjà ancien. Qui parfois est un peu rouvert. Le pape, lors d'un synode, c'est-à-dire une assemblée d'évêques, notamment sur l'Amérique latine, il y a de nouveau fait référence, mais effectivement, ça n'évolue pas plus que ça. Ce qu'il y a, c'est que quand on observe en fait les dérives dans les autres religions, on s'aperçoit que c'est
pas forcément
lié. Faut
faire très attention à ce qu'on dit, hein, voilà, c'est ça. Il y a la pédophilie
d'un côté. C'est pas forcément lié, et c'est vrai que
c'est quand même très très différent.
Voilà, un jour, un prêtre me disait, je ne pense pas qu'avoir une épouse soit un médicament pour me guérir de mon éventuelle perversité, perversion. Donc ça aussi.
Il y a des pédophiles qui sont parfaitement mariés. Hein, voilà, attention, voilà. Pour dire les choses crûment, pardonnez-nous, chers auditeurs.
Non mais et quand on sont pense prêtres. Que voilà. C'est en
absolument,
famille.
Ce que je disais, oui, bien sûr.
Mais on sait que la pédophilie et donc l'inceste se déroule d'abord en famille.
Et ce qui est intéressant aussi dans votre enquête, c'est le portrait de quelques jeunes que vous faites. Comment expliquer aujourd'hui l'engagement, on va dire, dans la foi de certains jeunes?
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une exigence de sens qui est explicite chez les jeunes, une exigence de radicalité, d'engagement et donc de cohérence. Ce qui fait que je trouve que qu'ils soient engagés de la gauche à l'extrême droite, on a quand même des jeunes qui aujourd'hui, certes, sont très minoritaires, mais représentent toute une vitalité qui est intéressante, qui a un vrai potentiel pour le catholicisme en France. Et donc, c'est vrai qu'on les a rencontrés, ces jeunes, et ils montrent que cette Église, elle a un potentiel de renouvellement, mais sur des bases complètement différentes. Ils ne sont pas forcément dans les mouvements classiques, dans les paroisses. Ils sont plus en réseau, ils vont s'engager sur des projets.
Les associations notamment, genre de choses.
Que ce soit aussi bien pour les chrétiens d'Orient que pour l'accueil des migrants, on a affaire à des jeunes qui sont en général très engagés.
C'est vrai pour toutes les religions. Hein. Moi, je constate qu'il y a un retour du religieux. On est une société qui est en crise avec une perte de sens et de valeur. Et donc les jeunes ont besoin de se raccrocher à quelque chose et ils vont. Alors moi, je le constate.
C'est une forme de psychothérapie, hein.
Oui, et puis de trouver du sens. Et donc, c'est effectivement, c'est un lieu où il y a de l'écoute, il y a du dialogue, où on essaie d'inculquer des valeurs, ce qui n'est plus le cas ailleurs. Et donc, moi, je le constate. Dans une ville comme la mienne, où il y a les trois grandes religions monothéistes sont extrêmement présentes. De plus en plus de jeunes sont non seulement de plus en plus croyants et de plus en plus pratiquants. Avec une pratique parfois très radicale aussi de leur religion, hein, que ce soit bien sûr la communauté musulmane, la communauté juive, la communauté catholique. Et donc on voit bien que c'est un phénomène qui est relativement important. Et chez les catholiques, moi je le constate de plus en plus, il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus actifs, et on retrouve une certaine pratique alors que pendant longtemps les églises se vidaient.
Tout à fait. Georges Fenech.
Oui, j'étais un peu interpellé sur le fait que vous dites que les catholiques se sentent de plus en plus minoritaires. Pourtant, nous sommes quand même encore un pays de culture et de civilisation judéo-chrétienne. Et nous aimons nos églises, nos fêtes religieuses, que ce soit pratiquant ou pas pratiquant, qu'on ait vraiment la foi ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Ou alors, est-ce que le catholique traditionnel, le catholique qui va à l'église, est-ce qu'il est sensible à tout ce que l'on entend aujourd'hui sur un risque de grand remplacement, c'est-à-dire d'une autre culture, d'une autre religion? Comment cela est-il perçu en réalité?
Alors, il y a une partie des catholiques qui sont attentifs à ce discours-là, plutôt minoritaire. Sinon, on sent quand même, et ça, c'est, je dirais, notre journal en est en fait le reflet. C'est vrai ce que vous dites, que la France, c'est quand même un pays qui s'est construit essentiellement sur des racines chrétiennes. Et on sent bien, à travers l'attachement de nos lecteurs à un certain nombre de valeurs, aussi à des lieux. Les églises aujourd'hui, pour la plupart, fermées parce qu'il n'y a plus la possibilité de les ouvrir et encore moins d'y tenir la messe, enfin le culte. Ce sont des lieux auxquels les Français, quelles que soient leurs convictions, sont viscéralement attachés. On rase peu d'églises en France, mais quand on en rase, c'est toujours un traumatisme.
Enquête à lire, justement, dans Le Pèlerin, en partenariat avec Europe 1, 6 mois avant l'élection, les catholiques et la présidentielle. Merci beaucoup, Samuel Liévin, d'avoir été avec nous ce soir dans les médias d'Europe Soir.